Vaste et utopique programme, dira-t-on. La transition est-elle possible, et surtout la transition est-elle possible sans une révolution violente, ou plus exactement, la révolution culturelle que j'évoquais, peut-elle se faire sans violence sociale? Comment passer de la société actuelle de croissance-développement à une société de décroissance? Ce passage peut-il être serein, convivial et soutenable comme la société que l'on vise? Bien sûr, si j'avais une réponse, je ne serais pas là, probablement. J'aurais été déjà promu dans des hautes sphères ou assassiné. Notre système repose sur la production de valeurs d'échange à travers le marché généralisé engendrant profit pour les capitalistes, exploitation pour les travailleurs du Nord et du Sud et destruction massive de la nature. La limitation drastique des atteintes à l'environnement et donc de la production de valeurs d'échange incorporées dans des supports matériels, physiques, n'implique pas nécessairement une limitation de la production de valeurs d'usage. On peut déconnecter la production de valeurs d'usage, bien évidemment, de la production de valeurs d'échange à travers des produits immatériels ou moins matériels. Et ces produits moins matériels peuvent au moins pour partie conserver la forme marchande. Donc il ne s'agit pas nécessairement d'abolir brutalement et totalement, ça n'est sans doute ni possible, ça n'est peut-être pas même souhaitable d'abolir la marchandise. Mais si le marché et si le profit doivent ou peuvent persister comme indicateurs, ils ne peuvent plus être les fondements et les uniques fondements du système. Alors on peut concevoir, réaliser c'est autre chose, mais bon, l'intellectuel réalise, les politiques, l'intellectuel conçoit, les politiques réalisent ou ne réalisent pas, on peut concevoir des mesures progressives qui constitueraient des étapes, mais il est impossible bien évidemment de dire si elles seront acceptées passivement par les privilégiés qui en seraient victimes, ni si elles seraient désirées par les actuelles victimes du système présent qui sont mentalement et physiquement droguées par lui. Et tout le problème, évidemment, c'est de convaincre une masse critique suffisante de gens qu'il faut basculer dans un autre système. Alors, bien sûr, c'est plus facile de convaincre sans doute, mais pas nécessairement les victimes, que les autres. Théoriquement, d'après la théorie des catastrophes, puisque nous sommes tous sur le Titanic, même ceux qui sont en première classe sont menacés par le naufrage et auraient, dans un calcul coût-avantage, auraient intérêt aussi à quitter le bateau et ne pas s'accrocher désespérément à leur système. Mais, bon, alors, la réappropriation de la monnaie que je préconise à la fin, en conclusion de mon livre de Justice sans limite, le recours conscient et systématique à une monnaie fondante, ce qui a été d'ailleurs en fait plus ou moins réalisé et qui explique en partie le succès des Trente Glorieuses, qui n'était pas qu'illusion. Parce que pourquoi? Parce que les Trente Glorieuses ont provoqué ce que Keynes appelait l'euthanasie des rentiers. Et l'euthanasie des rentiers, c'est pas négligeable. L'euthanasie des rentiers, c'est 10% du produit intérieur brut. Ce qui s'est passé dans les 30 dernières années et qui fait qu'à l'heure actuelle, on est dans une situation pour les gens qui ont des revenus du travail considérablement ou relativement moins bien lotis qu'autrefois, c'est que nous avons perdu 10% en points du PNB. Donc, des mesures comme ça, qui sont des mesures uniques, des mesures réformistes, mais qui sont concevables, même sans faire la révolution sanguinaire, sans refaire l'octobre rouge, peuvent avoir des effets et effectivement, historiquement, les rentiers ne se sont pas révoltés contre leur liquidation, elle s'est faite en douceur. Donc, il faudrait recommencer l'euthanasie des actionnaires cette fois. Bon. La fameuse taxe Tobin, ou les taxations des transactions financières qui a donné son nom à votre association, chers amis, limiterait considérablement la spéculation et affaiblirait un capitalisme financier et criminel, sans renoncer pour autant à la logique marchande. Donc, on peut concevoir des incitations fortes à une demande reconvertie vers les biens relationnels qui ne seraient pas complètement hors du circuit marchand. Bien sûr, la démarchandisation nécessaire du travail, de la terre et de la culture, ça serait plus problématique, mais ça ne porterait pas non plus atteinte à l'existence des marchés, mais ça nous éloignerait évidemment du spectre d'une société de marché. C'est une chose tout à fait différente. Les marchés au pluriel, avec un petit N, comme je dis, un N minuscule, ça a existé depuis très très longtemps. Et au fond, alors, j'ai entendu l'autre jour sur France Culture Denis Kessler disant ouais, les Français adorent le marché. Et tous les gens, tous les intermondialistes qui critiquent l'économie de marché et tout ça sont complètement à côté de leur plaque, à côté de la plaque. Les Français adorent le marché. Regardez, on est dimanche. Ils vont aux puces, à Saint-Ouen, etc. Ils adorent. C'est l'offre et la demande, ils marchandent, etc. Ils adorent le marché. Évidemment, c'est une imposture. C'est confondre les marchés concrets, qui sont des lieux de sociabilité, où s'instaure une relation de clientèle et une relation durable, où l'échange marchand est fait avec un petit zeste d'esprit du don, puisqu'on fait des rabais, on négocie, on essaye de maintenir la clientèle, et par conséquent, on essaye que la relation ne s'arrête pas au simple échange, mais se prolonge dans le temps, etc. Avec le marché abstrait des économistes, ce mécanisme d'interdépendance généralisée, où, comme dit Milton Friedman, dans le supermarché, c'est fantastique, parce que je paye, je prends la marchandise et je me tire sans avoir besoin ni de dire bonjour, ni de dire au revoir, ni d'aimer, ni quoi que ce soit, il n'y a pas de sentiment. C'est brut de décoffrage. Bon. Alors tout cela combiné à des formes alternatives d'organisation collective contribuerait progressivement à ce nécessaire réenchâssement de l'économique dans le social. Cette marche vers une société de décroissance devrait être organisée non seulement pour préserver l'environnement, mais aussi et peut-être surtout pour restaurer le minimum de justice sociale sans lequel la planète est condamnée à l'explosion. Mais tous ces arguments, je suis convaincu de leur valeur, d'une force extraordinaire, et tout de même, en fin de compte, je pense que l'inquiétante canicule de l'été 2003 a fait beaucoup plus que tous ces arguments pour convaincre de la nécessité de s'orienter vers une société de décroissance, pour réaliser la nécessaire décolonisation de l'imaginaire. Je crois, et c'est une source d'optimisme paradoxal sur lequel je voudrais conclure, que l'on peut très largement compter sur la pédagogie des catastrophes. Merci.